La matière, c'est la vie aussi.
Toutes ces idées qui viennent, il faut les attraper comme des mouches quand elles passent. Ce sont des idées bleues, des idées roses, des idées qui passent.
L'art et la matière. Une émission de Jean Deloisy.
Parce qu'on veut transformer la vie pour nous.
Ils empruntent des chemins qui n'existent pas, ils utilisent des formes et des mots inconnus, ils transforment ce que nous savions du monde, ce sont les artistes. Pour vous raconter ces aventures de l'œil et de l'esprit, j'invite écrivains, historiens, commissaires d'exposition ou simplement passionnés, car l'art est leur matière. Les figures tourmentées de Francis Bacon agitent sans fin nos interrogations sur la peinture. Curieusement, notre regard, aujourd'hui, se décale peu à peu et ceux d'entre nous qui pensaient retrouver, dans l'exposition du Centre Pompidou, les corps contournés, les visages écrasés, les chairs meurtries de l'artiste, au fond, des images simples de la souffrance la plus extrême, ont découvert, ce qui pourtant fut toujours dans ces tableaux, d'immenses aplats calmes de couleurs improbables, des dispositifs architecturaux maîtrisés qui peuvent faire songer aux instruments de rituels parfaitement réglés, des signes sémantiques qui appartiennent à des répertoires graphiques convenus. Les tableaux sont pourtant les mêmes que beaucoup connaissaient déjà, mais l'accrochage, comme la sensibilité de l'époque, a évolué. Certes, des corps s'agitent sous les vitres qui glacent les surfaces des œuvres et les homoncules qui y gémissent ressemblent sans doute à des insectes qui se débattraient sous la lamelle de verre que l'observateur a glissé dans son microscope. Ce voyage dans l'extrême réalité humaine est décrit par des moyens picturaux qui ne sont ni expressionnistes, ni abstraits, ni peut-être réalistes. Ils paraissent plutôt être une technique extrême, distancée, comme les inventions d'un avocat zélé qui aurait avec un certain sadisme bousillé les photos du dossier d'un procès à charge, conduit avec obstination. Un procès qui est probablement celui de notre humanité. Pour parler de cette extraordinaire exposition, j'ai le plaisir de m'entretenir au Centre Pompidou avec Didier Ottinger. Bonjour Didier.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Très très bien.
Nous sommes dans votre bureau et dans votre bureau il y a sur le côté une maquette. Cette maquette est celle avec laquelle vous avez préparé l'exposition et je remarque que les tableaux sur cette maquette ne sont pas exactement à l'emplacement des tableaux dans l'exposition que j'ai vue tout à l'heure.
Alors, certains d'entre eux seulement. Il est vrai que la maquette a permis très très tôt de fixer la place des œuvres qui sont pour moi les œuvres les plus importantes de l'exposition, celle autour de laquelle l'espace muséographique a été conçu, à savoir les triptyques. Ceux-là sont restés à la place qui leur avait été assignée, j'allais dire, des mois et des mois. Mais il est vrai que certains tableaux ont bougé, parce que certains, et ça c'est l'expérience évidemment qui surprend, on ne devrait plus être surpris quand on a fait autant d'expositions que j'ai pu en faire, mais néanmoins, on découvre des tableaux qui vous surprennent encore, qui exigent un espace qu'on n'avait pas anticipé, qui dialogue avec d'autres œuvres de façon totalement inattendue. Et c'est la grande surprise et c'est le grand bonheur de faire un accrochage comme celui-là.
Et Dieu sait pourtant que vous connaissiez ces tableaux. Vous étiez déjà conservateur au Musée national d'art moderne avant d'en être le directeur adjoint en 96, je crois, quand avait eu lieu la grande présentation de David Sylvester ici.
Alors j'arrivais tout juste à cette époque-là au musée, puisque je venais de prendre mes fonctions et j'avais encore la responsabilité du Musée des Sables d'Olonne. Mais j'ai découvert, effectivement, c'est ce que j'ai découvert lorsque je suis arrivé au Centre Pompidou, une exposition rétrospective de Francis Bacon.
Et c'était pas il y a si longtemps, 24 ans. Est-ce que c'était important de le refaire ou est-ce que c'était plutôt un angle que vous pensiez n'avait pas été souligné ?
J'avais pas un souvenir très très frais de ce qu'était la conception de l'exposition par David Sylvester. Je me souviens avoir été ébloui par un certain nombre de tableaux, mais dans le détail, je n'en avais pas vraiment le souvenir. Par contre, il y a quelques années, a eu lieu une exposition à Monaco, organisée par l'auteur du catalogue raisonné de l'œuvre de Francis Bacon, Martin Harrison. Et là, j'ai été frappé immédiatement par ce qui me semblait être une sorte de saut qualitatif spectaculaire qui s'opérait dans l'œuvre de Bacon autour des années 70, du début des années 70.
Je vous interromps, oui, mais je précise que c'est là la grande particularité de l'exposition, c'est que ce n'est pas une rétrospective.
Pas du tout, c'est une exposition qui considère les 20 dernières années de la production de Francis Bacon, 71-1992, date de son décès. Donc je reviens à cette exposition de Monaco, et là je suis frappé par la qualité extraordinaire de l'œuvre tardive de Picasso.
De Bacon, de l'œuvre mais ça aurait fait plaisir à Bacon que vous disiez Picasso.
L'œuvre tardive de Bacon. J'ai aussi une grande passion pour l'œuvre tardive de Picasso, c'est peut-être là le lapsus. Et je reviens au catalogue de l'exposition de 96, et là je découvre, en lisant le texte rédigé par David Sylvester, qu'il exprime une forme de grande défiance, de méfiance, à l'endroit des 15 dernières années de l'œuvre de Bacon. Et là, je me dis, il est temps peut-être de faire une nouvelle exposition qui va compléter celle de David Sylvester. Pourquoi David Sylvester avait-il cette prévention à l'égard des œuvres tardives de Francis Bacon? C'est assez évident pour moi, parce que j'ai travaillé aussi sur un autre artiste que je partageais avec David Sylvester, qui est René Magritte. David Sylvester est l'auteur du catalogue raisonné de l'œuvre de Magritte. Or, je le connais bien, ce catalogue, il exprime exactement le même doute à propos des 20 dernières années de l'œuvre de Magritte. Donc je me suis dit, il y a là, effectivement, au-delà du goût d'un personnage dont le goût était évidemment absolu, une sorte de manifestation de ce qu'était la formation historiographique qui était la sienne. En gros, un historien qui était partie prenante des valeurs de l'époque dans laquelle sa théorie de l'art s'est formalisée, celle du grand modernisme abstrait, même s'il s'intéressait à Bacon. Mais il avait encore, me semble-t-il, c'est comme ça que je juge aujourd'hui les choses, un regard qui était marqué par les valeurs qui sont celles de cette histoire moderniste, à savoir que l'avènement d'une œuvre est toujours préférable à sa répétition, que la jeunesse, d'une façon générale, est toujours à privilégier sur la maturité, c'est quelque chose qui appartient à l'épistémologie du modernisme.
C'est vrai. Alors, bien qu'il y ait des tas de contre-exemples, vous parliez de Picasso, c'est aussi une relecture tardive, mais qui fait qu'on apprécie maintenant énormément l'œuvre de Picasso, mais on aurait pu parler de Titien tout aussi bien. Alors, il se trouve qu'il y a quelque chose de commun entre Bacon et Magritte. Dieu sait que ça n'est pas exactement la peinture, ça n'est pas non plus l'isp, qui reste une question très importante dont j'aimerais bien que vous parliez, d'autant plus que dans votre enfance, si j'ose dire, vous aviez fait une exposition sur le haptique, et qui peut-être aura des liens avec ce dont nous avons à parler, mais c'est la question de la reprise des sujets, c'est-à-dire que Bacon y revient.
Absolument. Et c'est ce qui est frappant, c'est pour ça que l'exposition du Centre Pompidou s'ouvre par une salle où on voit deux tableaux répliqués par Bacon dans la perspective de l'exposition du Grand Palais de 1971. Et ce que je voulais affirmer avec cela, c'est que Francis Bacon, en 71, se sent suffisamment maître d'un outil technique qu'il a mis des années, des décennies à se forger. C'est une des grandes particularités de Francis Bacon. Lorsqu'il commence à peindre, il est totalement autodidacte. Il n'est pas passé par une école d'art. Or, son ambition est telle qu'il a la prescience de la difficulté qu'il va devoir affronter pendant des années, voire des décennies, avant d'être capable d'atteindre son objectif, qui est au fond de rivaliser, toute proportion gardée, avec Velázquez.
Velázquez, qui est l'artiste qu'il préfère même à Goya, c'est une référence continuelle, qu'il trouve d'une précision extraordinaire, qui dissimule quelque chose d'essentiel, qui est la déformation. C'est-à-dire qu'il se prononce très souvent sur le fait que l'image semble réaliste, mais elle ne l'est pas, et peut-être que c'est une clé de lecture.
C'est une clé de lecture et qui le rapproche une nouvelle fois, alors cette fois sans lapsus, de Picasso. Picasso avait l'habitude de dire « la peinture est un mensonge qui dit la vérité ». Et je pense que cette idée-là est au cœur de la réflexion de Francis Bacon.
C'est une phrase quasiment de Nietzsche, hein, par rapport
oui,
à l'art.
Par ailleurs.
Hein, voilà. Mais pardon, oui, vous avez raison, c'est assez étrange cette question. Mais pour revenir à l'origine de votre exposition, quand vous avez donc pris le relais de Sylvester, qui avait une sorte de méfiance à l'égard de la fin de l'œuvre de Bacon, je pense qu'il l'aimait quand même, mais peut-être pas autant. Mais il se trouve que Bacon, lorsque vous décidez de recommencer cette attention sur lui, on est en 72, c'est juste après la grande exposition qu'il fait à Paris, et qui est le théâtre d'un drame personnel.
Oui, il se passe beaucoup de choses autour de cette exposition. Évidemment, il y a la rétrospective elle-même. C'est la première d'une telle ampleur qui permet enfin à Bacon d'être confronté à tout son parcours artistique depuis les années 30. Mais c'est aussi le moment, vous l'évoquez, d'un drame personnel qui va, je pense, bouleverser Bacon au point pratiquement de changer sa psychologie. Ce drame, c'est évidemment le décès de son compagnon George Dyer, et ça va changer beaucoup de choses. George Dyer incarne une figure qui est une figure qui a hanté la jeunesse de Francis Bacon, c'est celle de son père au fond. Et à travers George Dyer, comme avec ses compagnons avant 1971, Bacon entretient une relation qui est de nature sadomasochiste. On sait que son père le faisait fouetter par ses palefreniers, lui étant éleveur de chevaux de course en Irlande, lorsqu'il a découvert l'inclinaison sexuelle de son fils. Et Bacon, évidemment, a nourri une sorte de fantasme dont les psychanalystes pourraient parler mieux que nous, que moi. C'est peut-être la fascination pour une figure paternelle, à la fois adorée et dont la manifestation des sentiments et de l'amour s'exprime par cette relation qui est de nature violente. Et c'est vrai que les compagnons de Bacon pendant des décennies, l'un des plus durables pour lui est Peter Lassie,
Est mort en 62, voilà, au moment d'une exposition très importante
aussi
pour lui.
Au moment d'une exposition, à la tête. Et quelqu'un dont on sait qu'il avait avec Bacon une relation qui est de nature pugilistique. Bacon, plusieurs fois, s'est pris de véritables roustes de la part de Lassie. Lorsqu'il rencontre George Dyer, il pense avoir affaire au même type de personnage. Personnage déjà avec une stature d'ancien boxeur, mauvais garçon, puisqu'il le rencontre dans son atelier alors que Dyer est en train de le cambrioler. Et il pense avoir affaire à ce même type de personnage, et il découvrira au fil du temps que c'est un personnage extrêmement fragile psychologiquement, un personnage tendre, sympathique s'il en est, et la relation va se retourner jusqu'à cet accident ou ce drame, ce suicide de Dyer à Paris, qui va solder les comptes de Bacon avec cette conception de l'amour inextricablement liée à la violence. Ça va être fini après 71 et on en a le témoignage le plus éloquent lorsqu'on est confronté dans l'exposition aux représentations de celui qui va devenir son compagnon après cet épisode, à savoir John Edwards. Et là, on a des représentations d'une délicatesse, d'une douceur, alors que dans les cas précédents, il y avait une sorte de vrai corps à corps qui prenait une forme plastique et qui donnait aux amis de Francis Bacon une image totalement fracassée.
Alors il y a un autre compagnon de Francis Bacon qui apparaît dans l'exposition et qui semble en être l'épine dorsale, si je puis dire, et d'ailleurs des épines dorsales, il y en a dans l'exposition, c'est la culpabilité.
Oui, alors cette culpabilité, il va la porter, et c'est la raison pour laquelle la figure d'Eschyle, à travers l'Orestie qu'il avait découvert dès les années 30, va devenir centrale pour alimenter et nourrir l'imaginaire de Francis Bacon après 71. Il le dira, il portera la trace et le souvenir de cette culpabilité qui lui fera regretter de ne pas avoir été là. Lorsque Dyer est décédé. Il faut rappeler que quelques mois plus tôt, Bacon était précisément là, lorsque Dyer avait commis une première tentative de suicide et Bacon l'avait sauvé. Cette fois, il est arrivé trop tard.
Alors, l'Orestie d'Eschyle, on est au 5e siècle avant Jésus-Christ, c'est une trilogie terrible, puisque c'est trois grandes tragédies qui montrent des personnages d'Agamemnon à Oreste, à Clytemnestre, bien entendu, et donc jusqu'à un terrible matricide et la poursuite, évidemment, de la vengeance sous les traits des Érénies, exactement. Et donc c'est quelque chose de terrible, puisque ça va être l'occasion de deux tableaux inouïs, d'un tableau inouï qui va être à l'origine de sa carrière. Et ce qui est assez intéressant, c'est que, au fond, dans l'exposition, vous repartez quasiment avec cela. En fait, l'exposition commence avec trois choses, on pourrait dire. Des autoportraits très culpabilisés de Bacon qui sont extraordinaires, où sa tête devient de la viande, on pourrait dire, presque. Ensuite, évidemment, la mort de George Dyer, et puis la crucifixion avec les figures au pied de la croix. Et cet enchaînement est étrange parce que vous l'organisez autour de cinq textes, je crois, qui sont six textes sur la question de la relation entre le bien et le mal.
Oui, alors ça nous conduit au choix même qui a été opéré en ce qui concerne les présentations des grands textes susceptibles ou ayant directement inspiré des œuvres de Francis Bacon. On connaît assez bien la bibliothèque de Francis Bacon, elle est conservée à Dublin, dans sa ville natale, ainsi que l'atelier D'ailleurs, le célèbre atelier de Bacon qui a été transporté quasiment par des archéologues, on peut le visiter à Dublin. Mais il y a aussi cette bibliothèque de Bacon qui a été inventoriée de façon très systématique, très précise. J'ai eu accès à un certain nombre de livres et ce qui m'a frappé, c'est effectivement la valeur d'usage de ces livres qui apparaissaient par des couvertures maculées, des textes surlignés, déchirés, des pages écornées, etc. Donc, véritablement, il apparaissait que Bacon était un grand et avide lecteur. Après cela, il fallait essayer, au milieu de cette jungle littéraire, d'isoler un certain nombre de grands arbres, et c'est les 6 textes et les 6 auteurs que j'ai voulu identifier, en prenant soin quand même de choisir des auteurs dont les liens avec l'œuvre de Bacon étaient irréfutables. Parce qu'on m'a dit, mais peut-être Yeats aurait pu être là, Proust aurait pu être là,
Shakespeare
aurait pu être là, mais il se trouve qu'il n'y a pas de tableau inspiré directement par Shakespeare, Yeats ou par Proust. Alors qu'il y a, pour chacun des autres auteurs, effectivement, un lien qui a été vérifié, étudié par les historiens d'art, de Georges Bataille à Léris, en passant par Conrad ou T.S. Eliot.
T.S. Eliot. Et Nietzsche, bien entendu.
Et Nietzsche, bien sûr. Et Nietzsche, capital. Qui nous conduit à votre question, d'ailleurs.
Mais alors, avant de répondre à cette question, peut-être, écoutons donc un texte de Nietzsche. Et c'est un texte qui est issu de la naissance de la tragédie, et dans lequel, évidemment, la question de la relation entre Dionysos et Apollon, entre l'apollinien, le monde de l'ordre, et le monde de l'extase, de l'ivresse, du débordement des règles, est clairement prononcée. Et c'est exactement, peut-être, sur cette tranche-là que se trouve Francis Bacon. Écoutons-le.
Les Grecs, qui dans leur dieu expriment et taisent à la fois la doctrine secrète de leur vision du monde, ont instauré comme double source de leur art deux divinités, Apollon et Dionysos. Ces noms représentent dans le domaine de l'art des styles contraires, qui, quoique presque toujours en conflit, s'avancent du même pas, et qui, une seule fois, au moment de la floraison de la volonté hellénique, paraissent confondus dans cette œuvre d'art qu'est la tragédie athénienne. L'homme, en effet, atteint la volupté d'exister dans deux états, le rêve et l'ivresse.
France Culture, l'art et la matière, Jean de Loisy.
Donc, nous venons d'entendre cet extrait de la naissance de la tragédie de Nietzsche, et vous savez, puisque le livre est dans l'exposition, que le livre a été lu par Bacon, probablement assez tôt.
Il a été lu beaucoup, régulièrement par Francis Bacon, au point que Michel Léris, dans les interviews où il évoque la figure de Bacon, le présente comme véritablement un artiste nietzschéen. Et c'est Léris qui insiste sur cette dimension-là. Donc ils ont dû, tous les deux, parler beaucoup, échanger autour des idées de Nietzsche.
Il faut dire que Léris est sans doute l'auteur et l'ami que Bacon admire le plus. C'est quasiment son vademécum, sa clé pour rentrer dans l'histoire des très grands artistes du XXe siècle.
Il était entouré, Francis Bacon, de figures qui avaient été en contact direct avec Michel Léris. Le surréalisme, on peut en parler, a été quand même une des grandes tentations, et peut-être durable de façon souterraine, de Francis Bacon.
Et frustration. Puisqu'il avait été refusé par Henri Breton en 1936.
Oui. En 36, il est rejeté, effectivement. Donc, Léris, c'était le surréalisme. Léris, c'est évidemment la grande amitié avec Georges Bataille, qui est un des auteurs déterminants pour Francis Bacon. Mais c'est aussi un auteur d'un sujet qui ramène à une autre écrivain fétiche de Francis Bacon, qui est Joseph Conrad. Souvenons-nous que Michel Léris est connu aussi par Bacon pour être l'auteur de L'Afrique fantôme. Or, c'est une idée, une valeur très importante pour Francis Bacon, qui va être réactualisée à son esprit par la lecture récurrente qu'il fera du texte de Joseph Conrad, Le cœur des ténèbres, qui est un grand roman anticolonial. Alors, c'est quelque chose de très important pour Bacon.
On va y revenir, donc, mais écoutons un extrait, donc, évidemment, du cœur des ténèbres. C'est un des plus beaux livres de Conrad.
Jamais auparavant, je n'avais vu quelque chose de comparable au changement qui envahit ses traits. Et j'espère bien ne jamais rien revoir de pareil. Or, je n'étais pas touché. J'étais fasciné. C'était comme si un voile s'était déchiré. Je vis sur ce visage d'ivoire se peindre l'orgueil sombre. le pouvoir implacable, la terreur abjecte, le désespoir intense et absolu. Revivait-il sa vie dans tous ses détails de désir, de tentation et d'abandon pendant cet instant suprême de connaissance totale? Il s'écria dans un murmure devant quelque image, quelque vision. Il s'écria deux fois, en une exclamation qui n'était qu'un souffle. L'horreur. L'horreur.
Nous entendons cette avancée extraordinaire de la civilisation qui s'ensauvage au rencontrant un ensauvagement qu'on découvre être détruit par cette civilisation. Il y a une relation entre le doute d'une culture occidentale et un autre monde.
Alors là, on est certes au cœur des ténèbres, mais aussi au cœur de la tragédie. La grande spécificité de la vision du monde de Conrad, c'est qu'elle est marquée par le sentiment tragique le plus aigu. Ce que raconte Conrad, c'est une forme de réversibilité constante entre la marche de ce qu'on pourrait appeler le projet, la civilisation, le progrès, et la barbarie. Si vous vous souvenez du roman, il s'ouvre sur une description d'une galère romaine qui remonte cette fois à la Tamise. La civilisation est portée par la civilisation romaine, et les Anglais sur les rives de la Tamise sont totalement des barbares sauvages. Or, on retrouve immédiatement dans le chapitre suivant ces mêmes Anglais, cette fois devenus extrêmement civilisés, qui vont répandre cette civilisation en Afrique même et remontent ce fleuve vers la source où un des relapses de la civilisation anglaise, Kurtz, va adopter les mœurs d'une civilisation elle-même ensauvagée. Donc cette idée-là, en fait, est une idée tragique dans le sens où elle est libérée de toute forme de téléologie. Et ça, c'est une conception et une valeur fondamentalement tragique, me semble-t-il. Et c'est ce que est cher à la pensée de Francis Bacon.
C'est comme s'il n'y avait pas de possibilité pour Francis Bacon de réflexion sur... Parce que sa réflexion va au-delà d'une réflexion sur la peinture, c'est quasiment une réflexion sur la civilisation, sans la question du mal, hein, qui semble être au cœur de son sujet.
C'est une pensée, évidemment, en référence à son intérêt pour Eschyle, en référence à son intérêt marqué, prononcé pour la pensée de Nietzsche, une réflexion qui porte sur la nature du tragique, c'est-à-dire d'un moment de la culture, si l'on veut, où il n'y a pas encore eu cette révélation, il n'y a pas cette promesse d'une rédemption. On est dans une relation de l'individu avec son destin, marquée par le caprice, l'arbitraire, la violence peut-être des dieux, et c'est tout ça dont rend compte Francis Bacon.
Alors à la date que vous choisissez, le drame est là, il y a probablement quand un ami disparaît, particulièrement ce suicide, il y a forcément une culpabilité, quel que soit ce que l'on ne connaît pas du passé et de la vie secrète de l'un et de l'autre, mais les tableaux en disent beaucoup, et il y a deux très grands triptyques qui disent énormément de cette relation et aussi de cette fin, avec des éléments que vous pourriez peut-être nous décrire d'un point de vue iconographique, c'est-à-dire, je pense en particulier à un tableau d'un rose tellement heureux, ou tellement étrange, ou dissonant, je ne sais pas comment le dire, mais je n'imagine pas faire un tableau funèbre sur la mort de mon meilleur ami avec un fond à plat entièrement rose.
Alors, pour comprendre ces tableaux-là et leur sens ultime, il faut peut-être se référer à la façon dont ils sont apparus dans l'historiographie, c'est-à-dire lorsqu'un critique anglais les qualifie de triptyque noir. Évidemment, ils sont noirs par l'inspiration qui leur a donné naissance, ils sont liés tous les trois à la mort de George Dyer, mais ils sont noirs pour une raison peut-être plus fondamentale, qui est celle de la présence marquée et fortement symbolique des ombres dans ces images. Et on voit dans le panneau que vous évoquez, le triptyque, le premier de 1971, une représentation de George Dyer qui est intéressante parce que si on remonte la physionomie de Georges Dyer. On voit que les souliers sont peints avec une relative attention. Le pli du pantalon est même marqué. Le tweed de son pantalon est peint là aussi de façon précise. Et quand on remonte, on arrive à une silhouette qui est une silhouette qui est en fait une ombre. Et la plupart de ces triptyques vont être des triptyques qui vont montrer comment Georges Dyer va disparaître, va être absorbé par les ténèbres et par le néant. Ce qui renvoie évidemment à une conception de la vie que Bacon a à de nombreuses reprises formulée. La mort est l'ombre de la vie. Et on ne peut peindre la vie que si, c'est paraphrasant Francis Bacon, on est attentif à cette part d'ombre, à cette présence de l'ombre à tout moment.
Alors, à de nombreuses reprises, cette ombre apparaît dans l'œuvre de Bacon, mais pour rester sur ce triptyque absolument saisissant, donc dans la partie centrale que vous décriviez, il y a effectivement Georges qui est au pied d'un escalier, il y a une bouche d'ombre avec une ampoule à peine suspendue et jaunâtre, et curieusement sort de sa silhouette noire un bras qui lui a l'air vivant et qui demande à entrer, mais qui demande à entrer dans le royaume d'ailleurs.
Alors, ce bras effectue un geste très précis et qui est assez facile à interpréter quand on connaît à la fois l'histoire de la peinture de Bacon et ses intérêts littéraires. C'est un bras qui rappelle ce qui est peut-être à l'origine de la vocation artistique de Bacon, à savoir la peinture de Picasso du début des années 30. Et en particulier, cette série de tableaux qu'il admirait par-dessus tout, les tableaux dits de la période de Dinard, où on voit Picasso déformer comme jamais l'anatomie humaine et associer ces figures de monstres présents sur la plage, revêtant dans la plupart des cas des maillots de bain d'ailleurs, qui s'emploient à tourner des clés dans des portes qui sont en fait les portes des cabines de plage où Picasso rencontrait sa jeune maîtresse, Marie-Thérèse, à l'époque. Et cette image-là a profondément marqué Francis Bacon, est à l'origine véritablement, puisque c'est lorsqu'il découvre Picasso à la fin des années 20 à Paris qu'il décide de devenir artiste, il était décorateur jusque-là, mais il se souvient de ces images, et cette image est peut-être une réminiscence de ce qu'a été les moments de volupté, les moments d'une relation charnelle avec son compagnon, et ce bras et ce geste renvoient à ses souvenirs.
Alors c'est extraordinaire ce que vous décrivez. D'abord, on comprend extrêmement bien du coup de la façon dont se déploie la surface, et comme toujours dans ces triptyques, tout ça se déroule au centre d'un arc de cercle avec d'un côté, est-ce un miroir, est-ce un tableau, je ne sais pas, vous allez me le préciser, mais en tout cas un visage qui apparaît sur une surface et qui donne l'impression d'avoir été peint non pas en reflet dans la surface mais dans la matière même de la surface.
Alors, le panneau de droite de ce triptyque à fond rose renvoie à une image qui est sans doute l'image la plus présente à l'esprit de Bacon lorsqu'il pense à des sujets érotisés. Celui qui est l'objet du plus grand nombre de représentations érotisées, c'est évidemment Georges Dyer, son compagnon, pendant près d'une dizaine d'années. Or, on remarquera dans l'exposition, non seulement dans ce triptyque, mais dans la plupart des tableaux, que Georges Dyer est toujours représenté de dos et que son visage est toujours renvoyé en reflet par une image qui ressemble à un tableau ou à un miroir. Et ceci est une transposition, évidemment, obsessionnel de la part de Bacon, d'un tableau qui est pour lui le tableau le plus sensuel, le plus érotique de l'histoire de la peinture, à savoir la Vénus de Velázquez qui appartient aux collections de la National Gallery de Londres et qui est un tableau, vous vous en souvenez, qui montre la Vénus de dos et dont le visage est renvoyé par un petit miroir qu'elle tend. C'est ce dispositif-là a une connotation érotique qui s'applique pour Francis Bacon à chacun des sujets qui mettent en scène ses amants en particulier.
Très intéressant, et je rebondis sur le mot dispositif parce qu'au fond, on a l'impression que, par moment, la construction interne des tableaux, et ça ne concerne pas que celui-là, mais aussi ceux qui sont, comme très souvent, avec des cages à peine dessinées, donne l'impression d'être des dispositifs, des sortes de mise en scène dans lesquelles l'architecture générale du tableau a une fonction symbolique ou a une fonction de mise en accusation ou a une fonction de mise en spéculation de l'ensemble de l'image.
Elle a aussi une fonction qui est accordée à un certain nombre de valeurs qui sont aujourd'hui les valeurs de ce qu'on appelle l'art contemporain. C'est la dimension immersive que souhaite produire Francis Bacon avec ses tableaux. Il dessine devant ses triptyques, vous l'avez dit, des arènes, des scènes de théâtre. Il tient à ce que ces tableaux soient accrochés à une hauteur qui soit compatible avec l'échelle des sujets qui les contemplent. Il y a une volonté véritablement de Francis Bacon d'intégrer ses visiteurs à l'espace qu'il construit dans ses tableaux. Il y a là véritablement quelque chose qui est de l'ordre de l'immersion souhaitée.
Donc c'est presque des installations d'une certaine façon.
Je pense que c'est ça, absolument, puisque quand déjà la forme du triptyque n'est pas anodine, être confronté à un tableau d'une telle ampleur qui excède la capacité de cerner et d'identifier un seul objet dans le champ visuel fait que vous êtes débordé, comme vous l'êtes, et c'est pas un hasard, devant un tableau de Barnett Newman, et il a beaucoup réfléchi à ce qu'était la grandeur et la séduction de la peinture américaine qui lui est contemporaine, mais c'est aussi, évidemment, une volonté d'absorber son spectateur, littéralement.
J'écoutais un commentaire que faisait, avec une très belle intuition, je trouve, Valérie Duponchel. Elle parlait de votre exposition en disant qu'elle donnait la sensation d'être très ritualisée. Et j'ai eu l'impression que par rapport à les accrochages que l'on a parfois eu la chance de voir dans sa vie de Bacon, il y a un calme que vous avez installé à l'intérieur de l'ensemble de l'exposition, avec la complicité de l'architecte scénographe, et qui crée déambulation des corps qui donne l'impression de faire partie de l'ensemble du dispositif, justement.
Il est vrai qu'il est tentant, avec Francis Bacon, d'extrapoler à partir de la forme qu'il choisit pour être la forme privilégiée de ses peintures, à savoir le triptyque. On sait tous que le triptyque a une connotation religieuse, que c'est le support le plus historiquement employé dans les chevets des églises, c'est attaché évidemment à toute une représentation religieuse qui s'ancre dans la tradition médiévale, et ça renvoie évidemment, je pense, à peu près automatiquement, pour un visiteur, à cette notion de sacralité. Je crois que c'est le terme qu'il faudrait employer à propos des tableaux de Bacon, parce qu'on est au cœur de la définition du sacré, telle que les proches de Bacon, tels que les auteurs de prédilection de Bacon l'ont formulé. Georges Bataille est quelqu'un qui était entouré d'ethnologues, qui a réfléchi avec Caillois et autres sur ce qu'était le sacré. Michel Léris, abondamment également. Or, le sacré, c'est une, au sens profane, sans doute, que Bacon donne à cette notion, et l'expression d'un dualisme, d'une coprésence, d'une co-intelligence de valeurs qui sont précisément celles qu'il déploie à la surface de ses tableaux, l'ordre et le désordre, Eros et Thanatos, enfin toute une série de couples qui sont précisément tous ceux qui constituent le ressort poétique de ces auteurs de prédilection. Et c'est valable pour Eliot, c'est valable pour Nietzsche, le dionysien et l'apollinien.
C'est valable pour Bataille. Et je vous propose d'ailleurs d'écouter un texte de Bataille qui est entendu dans l'exposition, qui est un des plus beaux textes que je connaisse de Bataille, sur l'abattoir comme ultime lieu sacré à l'intérieur de la ville. C'est un numéro de document sûr dans lequel il y avait des reproductions de Élie Lothar, des photographies incroyables de Lothar sur des tronçons de vie de vaches comme ça représentées au bas des murs, et des photos de Boiffard sur la bouche, sur la gueule, je devrais dire. Écoutons-le.
L'abattoir relève de la religion en ce sens que des temples des époques reculées étaient à double usage, servant en même temps aux implorations et aux tueries. Il en résultait sans aucun doute une coïncidence bouleversante entre les mystères mythologiques et la grandeur lugubre caractéristique des lieux où le sang coule. De nos jours, l'abattoir est maudit et mis en quarantaine comme un bateau portant le choléra. Or, les victimes de cette malédiction ne sont pas les bouchers ou les animaux, mais les braves gens eux-mêmes, qui en sont arrivés à ne pouvoir supporter que leur propre laideur, laideur répondant en effet à un besoin maladif de propreté, de petitesse bilieuse et d'ennui. La malédiction les amène à végéter aussi loin que possible des abattoirs, à s'exiler par correction dans un monde amorphe où il n'y a plus rien d'horrible et où, subissant l'obsession indélébile de l'ignominie, ils sont réduits à manger du fromage.
Vous êtes sur France Culture, vous écoutez l'art et la matière, et nous sommes au Centre Georges Pompidou, dans le bureau du directeur adjoint du Centre Pompidou, évidemment notre ami commissaire Ottinger, et qui vient de faire une exposition absolument sensationnelle sur Francis Bacon, et que nous sommes en train de commenter. Et nous venons d'entendre à ce propos un très beau texte de Bataille sur l'abattoir, et aujourd'hui avec l'émotion autour du monde animal, ça a un sens très particulier, comme ultime lieu sacré au centre de la vie. civile. Et j'aimerais que vous me disiez quelques mots sur cette fascination pour Bataille et les circonstances peut-être du regard de Bacon sur ces revues, documents.
Alors, Francis Bacon, on le sait à peu près assurément, découvre la revue Documents, l'accès pour lui à l'œuvre de Georges Bataille, dès les années 30, c'est-à-dire au moment où, pratiquement où elle se conçoit à Paris. C'est le fait d'un des artistes avec lequel il partage un atelier au début des années 30, qui est Roy de Maistre, un artiste d'origine australienne, qui lui a une grande connaissance de l'avant-garde parisienne et en particulier du milieu littéraire parisien. Et c'est lui qui conduit Francis Bacon dans une galerie anglaise à l'époque, qui est la galerie Swemmer. Et cette galerie est une galerie qui est passionnée par la littérature et les revues d'avant-garde françaises, au point de devenir quelques années plus tard le correspondant anglais des cahiers d'art. Et c'est là, probablement, que Bacon découvre ces exemplaires de documents. Vous les avez évoqués, ces photos qui augmentent et illustrent les textes de Bataille sont absolument saisissants. Et évidemment, ils ont un impact direct sur l'œuvre de Francis Bacon, et on imagine que les gueules ouverte des Euménides qui figurent sur son premier triptyque proviennent des photos qu'il a découvertes dans la revue Documents, en particulier celle de Boiffard. Le thème des abattoirs est omniprésent dans l'œuvre de Bacon, au point qu'il se fait représenter lorsqu'il se fait photographier par son ami Deakin, il se fait, c'est une photo très célèbre, photographier flanqué de deux carcasses de bœufs. Bacon a de nombreuses reprises évoqué cet univers de la boucherie, du sacrifice, des abattoirs. Il y a aussi dans l'exposition une figure qui résume peut-être, bien qu'elle ne soit pas identifiée comme telle, les liens profonds de Bacon avec Georges Bataille. C'est une figure d'acéphale. Un personnage qui est sur une sorte de petite table, évidemment, étêté. Or, on sait que si Georges Bataille avait, et il en a eu le projet, résumé sa pensée, la condensant dans une seule image, ce serait celle que son ami André Masson a conçue pour lui en 1937, pour une revue qui est la revue Acéphale, et cette figure-là signifiait pour Bataille tout son projet philosophique, qui est celui de définir une humanité émancipée de la raison, émancipée de sa tête, émancipée de l'idéalisme et émancipée de toutes les valeurs élevées pour s'adonner précisément ou exprimer son instinct, sa sexualité et autres.
C'est un moment où la pensée de Bataille est au maximum de son danger, si je puis dire, puisqu'ils allaient jusqu'au bord du sacrifice humain. Donc, dans des questions qui, évidemment, Bacon étant ce qu'il était, même dans ses attirances sexuelles, très très important. Mais il y a un personnage autour de Bataille qui est important pour la peinture, et peut-être pour Bacon, c'est Masson.
Oui, parce que Masson est sans doute celui qui, avec Francis Bacon, a été au plus près de la transposition ou de la formulation dans les moyens qui sont ceux de la peinture, de ce qui est au cœur de la peinture de Bacon, et cette fois c'est Gilles Deleuze qui le dit, c'est-à-dire une peinture non pas de forme, mais de force. Or, on le sait, l'obsession constante de André Masson en matière d'expression artistique, c'est l'idée des métamorphoses, c'est-à-dire de ces passages, c'est-à-dire de cette vie qui n'est pas figée, mais dont on s'efforce de restituer l'énergie, le mouvement, la force. Or, les forces sont là présentes chez Bacon.
Alors, c'est quelque chose qui est très intéressant parce que ça relie évidemment ce vitalisme dont vous parlez et qu'évoque Deleuze étant lui-même très influencé par Bergson. C'est aussi un renvoi, je trouve, à la personnalité de T.S. Eliot qui lui-même a suivi les cours de Bergson et qui lui-même était fasciné par ces questions de vitalisme. Et donc la lutte générale pour recharger dans un moment séculier, on peut dire, la peinture de la vitalité la plus extrême et qui est vitalité du sacré au sens profane, et par là.
Et avec la même idée ou le même arrière-pensée ou le même background philosophique qui est de dire cette expression de la vie par les moyens qui sont ceux de l'art ne doit jamais faire l'économie de son double négatif qui est la destruction, la mort. D'où le premier vers de T.S. Eliot qui décrit ces fleurs qui jaillissent sur les tombes.
Exactement. Donc, je vous propose d'écouter justement un extrait de ce très beau livre de T.S. Eliot.
Quelles racines s'agrippent, quelles branches croissent parmi ces rocailleux débris. Ô fils de l'homme, tu ne peux le dire ni le deviner, ne connaissant qu'un amas d'images brisées sur lesquelles frappe le soleil. L'arbre mort n'offre aucun abri, la sauterelle aucun répit, la roche sèche aucun bruit d'eau. Point d'ombre. Si ce n'est là, dessous ce rocher rouge. Viens t'abriter à l'ombre de ce rocher rouge. Et je te montrerai quelque chose qui n'est ni ton ombre au matin marchant derrière toi, ni ton ombre le soir surgir de rencontre. Je te montrerai ton effroi dans une poignée de poussière.
Vous êtes sur France Culture, vous écoutez L'Art et la Matière, vous venez d'entendre The Westland de T.S. Eliot, et nous sommes en train de parler avec Didier Ottinger, le commissaire de l'exposition Francis Bacon, de cette question très extraordinaire de l'influence du tragique à l'intérieur de l'œuvre de Bacon. Et il se trouve que T.S. Eliot a, je crois, Didier Ottinger, a été inspiré par Eschyle et en a fait un ouvrage qu'a lu évidemment Francis Bacon.
Voilà, c'est par T.S. Eliot en fait que Francis Bacon découvre l'œuvre d'Eschyle. Et il le fait en 1939 lorsqu'il assiste à plusieurs reprises, on le sait, à une représentation d'une pièce de T.S. Eliot, La Réunion de famille, qui est une transposition par T.S. Eliot du drame précisément de l'Orestie.
Alors le drame de l'Orestie se termine par la vengeance puis la réprobation des Erini qui changent de nom à ce moment-là, qui ne sont plus les Erini, qui deviennent les Bienveillantes, peut-on dire. Qu'est-ce que ça vous inspire ?
Ça m'inspire surtout le titre Bienveillante, un roman célèbre et récent de Jonathan Little. Ah oui. Or ce roman est un roman supposément le journal d'un tortionnaire nazi. Or, Jonathan Little a donné comme couverture à son texte une représentation, une reproduction du tableau de Francis Bacon. Et évidemment, ça m'a amené à réfléchir à ce qu'était le sens du tableau de Bacon.
À l'époque, le tableau, juste pour que nos auditeurs puissent nous suivre, le tableau dont nous parlons, ce sont trois figures au pied de la crucifixion, au pied de la croix, et ces trois figures sont trois goules, trois monstres épouvantables en train de hurler. Deux sont sur fond rouge, on a l'impression qu'elles se découpent sur les tableaux de Roscoe. D'ailleurs, peut-être que ce n'est pas sans lien. Et celle centrale est devant un immense tapis rouge qui monte juste vers le mur et qui est à côté d'un reposoir de sculpture, dirait-on, non, à très...
une petite sellette de sculpteur. C'est l'époque aussi, c'est pas un hasard, où Francis Bacon est très tenté par la sculpture. Et il le dit, on imagine même qu'il s'est livré à quelques expérimentations techniques pour réaliser des sculptures. Mais revenons-en à ces trois figures d'Erini. Lorsque Bacon les présente pour la première fois au public sidéré en 1945, les critiques de l'époque diagnostiquent une forme de folie de Francis Bacon et en tout cas un profond anachronisme. On dit, comment peut-on, en 1945, représenter ce type de figure ? Or, le texte de Little, au contraire, nous ramène à la signification de ces trois images. 1944, lorsque Bacon réalise ce triptyque, il représente ces trois figures qui sont les figures de la vengeance, qui sont en fait dressées devant une humanité qui, en 1944, est en train de commettre, on le sait, les pires atrocités. Et au fond, le tableau de Bacon est un tableau qui s'adresse à ses contemporains en leur disant « Voilà l'état de la civilisation telle que vous l'avez, en 1944, développée ».
Est-ce que vous avez l'impression que, évidemment, il a répété à plusieurs reprises qu'il a été dans trois guerres, en fait, hein, l'indépendance de l'Irlande, la guerre de 14, la guerre de 40, et que ça ne peut pas ne pas lui donner un sentiment tragique de la peinture. Mais est-ce qu'il y avait au-delà de cela un intérêt et une apparition du politique dans son travail ?
Alors oui, on sait que pendant des années, il en rend compte à David Sylvester, il a le projet de peindre un grand tableau d'histoire et de résumer, c'est lui qui le dit, l'histoire du XXe siècle européen en une seule composition, en un seul triptyque. Et celui-ci est accompli en 1986-87, et dans le fatras d'images qui jonchent l'atelier de Francis Bacon, il sort deux photographies, L'une qui représente le président américain Woodrow Wilson, qui en 1919 sort du Quai d'Orsay, où il vient de paraffer le traité de Versailles. Première guerre mondiale qui va conduire à la seconde. Oui, et dans le panneau droite, une image qui interprète une photographie de la scène de crime de Léon Trotsky en 1940 au Mexique.
Simplement un drap taché de sang.
Voilà. Comme si Bacon résumait l'histoire du XXe siècle européen en disant, au fond, guerre et idéologie.
C'est saisissant. Et alors, ce triptyque dont on parlait au pied de la croix, il l'a refait, puisque dans l'exposition, c'est une deuxième version que vous avez. Parce que l'attention que vous décriviez tout à l'heure lui a attiré tout de même un grand succès.
Un succès aussi qui est lié à la posture scandaleuse qui était la sienne. Il affectait, je pense, il a construit quand même son personnage, mais il passait pour un être particulièrement débauché, soulographe, homosexuel, perverti, etc. Il a construit cette image-là, et les peintures qu'il produisait, qui étaient toutes liées effectivement à des monstruosités, à des scènes de violence, à des déformations caricaturales, ont contribué à un succès qui était, je pense, d'abord un succès de scandale. Et il estime, jusque dans les années 70, qu'il n'est pas compris comme il doit l'être. Effectivement, il est, je pense, en partie piégé par cette fiction qu'il a lui-même construite autour de sa figure.
Mais donc, il va jusqu'à la refaire, donc, néanmoins.
Oui, alors en 1988, c'est-à-dire 4 ans avant son décès, il reprend son tableau le plus célèbre, son premier tableau, au fond, parce qu'il y a quelques tableaux antérieurs, mais il a essayé de les détruire, sauf un, pratiquement. Celui-là est le premier tableau qu'il reconnaît comme étant une œuvre réalisée, accomplie. Et il le refait, mais refait dans un style qui est le style que l'on pourrait appeler style tardif, c'est-à-dire un style qui est marqué par cette... Alors, on parlait tout à l'heure de Magritte, et je crois que là où on peut rapprocher dans la production tardive de l'un et de l'autre, Magritte et Bacon, c'est autour d'une définition que Bacon donne d'un de ses tableaux les plus réussis, dit-il, l'eau qui tombe du robinet, qu'il qualifie d'immaculée. Et je pense que Magritte aurait pu dire ça, et en tout cas c'est ce qui m'intéresse dans les tableaux tardifs de Magritte, ils ont la même qualité que les tableaux de Bacon, de ressembler à des formes d'apparition immatérielle. Il y a quelque chose de l'ordre de l'image qui apparaîtrait sans contact. Et Bacon était très fasciné par cette idée-là.
Ça, c'est l'idée, des icônes achéropoïètes faites sans intervention de la main de l'homme. Et est-ce que c'est une des raisons pour lesquelles il a insisté pour maîtriser l'encadrement et la surface de ces tableaux qu'ils ont recouverts de verre?
Je pense, parce qu'on a beaucoup spéculé, la réflexion des visiteurs à l'époque où il n'y avait pas encore de protection anti-reflet, a induit toute une lecture et une prose autour des tableaux de Bacon, expliquant que sans doute a-t-il voulu intégrer par leur propre reflet les visiteurs dans ses compositions. Ceux qui ont connu Bacon et les restaurateurs me disent s'il avait aujourd'hui les plexis anti-reflets, il les utiliserait. Il y a d'autres raisons pour lesquelles il a utilisé ces glaces. En particulier parce que c'était un grand expérimentateur technique. On le voit lorsqu'on a le nez collé sur les tableaux, et il faut vraiment le faire parce que c'est d'une richesse de texture absolument extraordinaire.
C'est curieux de vouloir l'effacer, la texture, parce qu'en fait, le verre l'efface néanmoins.
Oui, mais Bacon, vous l'avez vu, utilise tout type de technique hétérogène et contraire à tout type d'enseignement académique de la technique picturale. Il souffle des pigments, il rehausse sur la peinture encore poisseuse avec des traces de fusain, des choses qui, in fine, ne lui permettent pas de vernir ses tableaux.
Il jette de la peinture directement sur la toile.
Il souffle, on sait qu'il souffle beaucoup. Et parfois, il gratte sur le sol de son atelier et colle de la poussière, en particulier dans une des dernières compositions.
C'est le cas de ce dernier tableau qui est absolument fascinant, qui est presque un commentaire affectueux de l'Iris, qui est ce taureau, qui est un tableau achevé.
Oui, qui est un tableau achevé, qui est le dernier tableau accompli par Francis Bacon en 1991, et qui est un tableau qui résume tout, parce qu'il est réduit chromatiquement à cette opposition du blanc et du noir. C'est un hommage, vous l'avez dit, à l'Iris, mais aussi inspiré par Lorca, directement. Il vit à l'époque en Espagne, il se rapproche, c'est pas un hasard, du sanctuaire le plus précieux pour lui, qui est le Prado, où il va chaque matin contempler les œuvres de Velázquez. Et puis il se souvient aussi peut-être de Picasso, l'homme des taureaux. Donc il y a ce résumé grandiose dans une seule figure.
Et puis c'est une figure très émouvante parce que d'abord il y a cette poussière qui évidemment est le sens de la vie, si je puis dire. En tout cas, le destin de la vie, on la sent. Il l'avait déjà utilisé dans sa peinture, mais là, elle prend un sens peut-être que nous projetons, mais qui est très fort. Vous ne croyez
oui,
pas ?
Si, si, qu'on ne projette pas, parce que lorsque Bacon est interrogé sur son usage de la poussière dans ses tableaux, il répond par une formule laconique, évidemment extrêmement profonde, la poussière, c'est la seule chose qui soit éternelle.
Et c'est, malheureusement...
C'est aussi tragique,
ouais.
En soi.
Et on voit la relation de ce taureau au tauril qui est un rectangle noir à côté d'un rectangle blanc qui est le soleil. Et on revoit le rectangle de la porte d'ailleurs au début.
Absolument.
Très impressionnant. Alors dans l'exposition, il y a aussi un tableau. Donc je suis assez curieux d'avoir votre point de vue là-dessus. C'est un tableau de 46 qui est un tableau qui est le premier tableau de Bacon à être entré au musée d'art moderne, au MoMA, au musée d'art moderne de New York.
Oui.
Alors, et c'est le premier tableau, si je me trompe pas, à être entré dans le au MoMA. Quand il est devenu musée.
Dans une collection publique.
Dans une collection publique.
Oui, on est en 1946. Bacon peint ce tableau qui s'intitule d'ailleurs Painting 46. Là aussi, les titres de Bacon sont très éloquents sur le sens qu'il entend leur donner ou le sens non littéraire. C'est un autre débat. En tout cas, ce tableau est connu par Alfred Barr, le directeur du MoMA de l'époque. Et 2 ans après sa réalisation, donc en 48, il fait l'acquisition de ce tableau. Qui est incroyablement visionnaire, puisque Bacon n'existe pas sur la scène de l'art international, si ce n'est qu'il a, il travaille avec une galeriste à l'époque, extrêmement informée, qui, elle, fait la promotion de Francis Bacon, qui va le soutenir pendant des années où Bacon, évidemment, au regard de ses tableaux, ne vendra rien. Et elle réussit à persuader Alfred Barr, qui l'a montré une intuition, encore une fois, phénoménale.
Alors c'est un tableau très impressionnant parce que c'est un des premiers tableaux où apparaissent les quartiers de bœuf de chaque côté de son autoportrait en fait. Hein, c'est un autoportrait ?
Non,
un portrait d'homme, non ?
Non, c'était... Alors Bacon relate le processus qui l'a conduit à concevoir ce tableau, qu'il conçoit de façon presque automatique. C'est un tableau à propos duquel on peut à peu près légitimement parler des liens de Francis Bacon avec l'influence surréaliste, avec l'inspiration surréaliste. Ce tableau ressemble de très près à un cadavre exquis. Et lui-même relate son projet de peindre dans un premier temps un oiseau posé sur l'herbe qui devient une figure, qui elle-même devient un quartier de viande, qui devient un parapluie. Enfin, on n'est pas loin.
Le parapluie est très animal aussi, c'est un oiseau, le parapluie.
Le parapluie, à propos de la rencontre fortuite, on n'est pas loin du surréalisme.
Ah, on est tout à fait près du surréalisme, en effet. Mais c'est vrai que c'est un montage au sens cinématographique. Il y a aussi un lien de Bacon au cinéma qui est très fort.
Absolument fort, et c'est ce qui fait de lui un grand artiste moderne, indépendamment de la forme classique qu'il donne à ses tableaux, de l'encadrement qui renvoie à l'art des musées, on sait que son inspiration, toutes ses sources iconographiques proviennent de la photographie et surtout du cinéma.
Avec le temps, il découvre Eisenstein en France d'ailleurs.
Voilà, il est en 1929 en France et la même année, il assiste à la première représentation du chien andalou de Buñuel. Ça reste un choc absolu pour lui. Et un peu plus tard, Eisenstein avec le cuirassé Potemkin, auquel il empruntera un certain nombre d'éléments.
Et il est à Chantilly où il découvre Poussin, bien entendu, et en particulier le massacre des saints innocents, qui pose déjà un problème. Et il parle très très bien français. Enfin, on l'entend souvent, même dans le générique de l'art et la matière, vous entendez sa voix à plusieurs reprises. Et c'est étonnant sa francophilie, puisque à la fin de sa vie, il a un appartement rue de Birague à Paris. Donc vous rendez un hommage à un francophile. Avéré.
À quelqu'un qui a très très tôt fait savoir à son entourage que le seul pays qui était susceptible de le reconnaître, c'était la France. Et de ce point de vue, il ne s'est pas trompé, parce que l'exposition de 71 a été un triomphe.
Vous rappelez comment il arrive en 29 en France, à Chantilly, et il a à ce moment-là 17 ans, 18 ans. Il est quand même extraordinairement doué pour s'intéresser à ces éléments si aigus de la culture, au fond. Hein. Il va être dans un bain légèrement surréalisant, assez rapidement. Un peu plus tard, il va essayer de rentrer à proximité du monde des surréalistes. Vous parliez tout à l'heure des cadavres exquis. Vous pensez que c'est une influence qui a été durable dans son travail ?
Oui, parce que il se réfère tout au fil de sa carrière au processus automatique de réalisation des œuvres. Il est absolument sensible et il cultive ce que lui appelle l'accident. Il développe toute une esthétique du jeu. Tout cela sont des valeurs qui appartiennent de plein droit à l'univers poétique du surréalisme.
Alors, il va pas être très bien accueilli par André Breton, qui n'a pas pigé, alors, si je puis dire.
Oui, c'est pas André Breton. Là, pour le coup, c'est Francis Bacon est informé d'un projet d'exposition internationale du surréalisme qui doit avoir lieu à Londres en 1936, au Burlington Gallery. Et là, il fait venir dans son atelier les deux commissaires anglais, Penrose et Reid. Et il soumet ses tableaux en disant « voilà, j'en suis ». Et les deux lui disent « non, pas assez surréaliste. On ne saura jamais ce qu'on aurait pensé André Breton. »
Ah, j'ai cru
ce
que
sont
des
Anglais. Ah, or, oui. Peut-être que les convertis sont encore plus rigoureux que le pape.
Donc, ils nous ont séparés de Bacon. La séparation est très anglaise. Et alors, un autre aspect. Il va, au moment où il va travailler et commencer à se faire connaître à partir de l'après-guerre, on peut dire, la fin des années 40, début des années 50, le monde de l'art se transforme légèrement, c'est ou même fortement, l'art américain devient un art dominant et devient un art qui demande que l'on, et qui exige même, que l'on respecte le matériau, la matérialité du tableau et qu'on n'aille pas au-delà, qu'on échappe au récit. Et lui,
c'est la grande intempestivité de l'œuvre de Francis Bacon qui éclot à un moment où triomphe précisément l'école de New York, c'est-à-dire le grand modèle du formalisme abstrait devient la doxa, et particulièrement en Angleterre, où effectivement ces idées n'ont pas besoin d'être traduites pour être directement accessibles et se propager dans le système anglais. Il est contemporain de ces artistes-là, il va systématiquement les dénigrer. On en rajoute un peu lorsque l'on cite la rudesse des propos de Francis Bacon, qui qualifie par exemple Jackson Pollock de dentelière. Il faut comprendre qu'à l'époque, c'était une question de survie pour lui. Il était là tout seul à défendre, pas tout seul en Angleterre, mais enfin son ambition internationale, le positionner face à des grands maîtres abstraits, qui expliquait et discréditait totalement la pratique qui était la sienne. Il en rajoutait un peu dans la défense, mais là, on peut lui pardonner.
Mais l'admiration, néanmoins, vient. On ne peut pas dire que ça l'ait ni changé dans sa trajectoire, ni empêché sa notoriété. Je sais que l'exposition de Claude Bernard, ça devait être en 72 aussi, d'ailleurs, non ?
Alors, 77.
77. Ah, c'était la queue dans la rue des Beaux-Arts. C'était un événement parisien considérable. Oui. C'était une personne qui était devenue, à ce moment-là,
oui,
immense.
Mais il faut souligner une nouvelle fois la forme de décalage qui pouvait exister dès cette époque, au début des années 70, par exemple. Une revue d'art française organise un sondage pour demander à ses lecteurs quel est le plus grand artiste vivant. On exclut Picasso qui est encore vivant. Et le premier qui arrive, c'est Francis Bacon. Francis Bacon va bénéficier d'un grand succès populaire au moment de son expo de 71, mais vous le savez bien, en 71, on a BMPT, on a les premières manifestations de support surface. Bacon n'appartient pas à ce monde qu'on appelle celui de l'art contemporain. Et ça, c'est une question très aiguë dans ces années-là.
Et qui continue peut-être à l'être en dépit d'une admiration généralisée, parce qu'en fait, on ne lui trouve pas beaucoup de descendance.
Oui, mais je crois que c'est le propre des grands génies. Picasso non plus n'a pas beaucoup de descendance. Ou quand il en a, c'est problématique. Je m'y suis frotté.
Merci beaucoup Didier Ottinger pour ces commentaires et cette très belle exposition au Centre Georges Pompidou. Merci.
La matière, c'est la vie aussi.
Toutes ces idées qui viennent, il faut les attraper comme des mouches quand elles passent. Ce sont des idées bleues, des idées roses, des idées qui passent.
Parce qu'on veut transformer la vie pour un moment.
C'était L'art et la matière par Jean Deloisy en partenariat avec Beaux-Arts Magazine. Aujourd'hui, j'ai pu commenter cette exposition avec Didier Ottinger, son commissaire. Et nous étions dans son bureau au Musée national d'art moderne. Vous retrouverez les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. C'est une émission conçue en collaboration avec Seam Boutata, prise de son Hélène Langlois, réalisation Franck Lilin. La semaine prochaine, nous rencontrerons Christian Boltanski pour son exposition également au Centre Georges Pompidou. À 15h30, vous retrouverez Victor Massé de l'Épinay et son rayon BD. Et dans quelques instants, Personnages en personne par Charles Danzig. Bon après-midi sur France Culture.